الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence donc maintenant le cours numéro 66 dans l'explication du livre Qurrat Uyun al-Muwahidin, qui est le charh du Kitab al-Tawhid du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab. Le charh, c'est le charh de son petit-fils, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan al-Sheikh. Et le charh qu'on lit avec les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, dans le livre Al-Ta'liq al-Mukhtasar al-Mubin, ala Qurrati Uyun al-Muwahidin. Naam. Donc, on continue à partir de l'endroit où on s'était arrêté la dernière fois. Et on est à la fin du chapitre Bab ad-du'a ila shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire le chapitre au sujet de l'invitation au témoignage de la ilaha illallah, c'est le chapitre 5. Donc on termine l'explication du Cheikh Abdurrahman ibn Hassan ici. Et ensuite on va commencer le chapitre numéro 6, inshallah. Donc le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit wa qawluhu unfudh. Unfudh wa huwa bi dhamm al hamza wal fa. Wa qawluhu ala rislik amruhu an yasira ilayhim bi adabin wa anatin hatta tanzila bi sahatihim. As-sahatu hiya ma qaruba min husunihim. Wa qawluhu ادعوهم إلى الإسلام هذا هو شاهد الترجمة وهكذا ينبغي لأهل الإسلام أن يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق إلى الإسلام والدخول فيه وينبغي لولاة الأمر أن يكون هذا هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم. قال شيخ الإسلام دين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده فأصله في القلب والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه فمن عبده وحده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلما وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته. Donc on va traduire ce passage. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, hafizahullah, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il a dit à Ali radiyallahu anhu, unfuz. Unfuz, c'est-à-dire par, hein? C'est un verbe impératif. Min nafadha yanfuzu. Hein? Donc unfuz. Et il explique que le verbe ici, c'est avec une dhamma sur le hamza et sur le fa aussi. Unfud. Il dit ensuite, ala rislik. Ala rislik, ça veut dire, yani, calmement. Hein, avec yani, repos, avec bonne manière, avec calme, avec un pas qui est calme. Et non pas avec énervement ou hein, des choses de ce genre. Hatta tanzila bisahatihim, c'est-à-dire jusqu'à ce que tu arrives devant la place qui est devant leur forteresse. Donc la place qui entoure ou qui est devant les murailles de leur forteresse, ce qu'on appelle as-saha. As-saha, c'est la place, la grande place en avant de la forteresse. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, avance calmement jusqu'à ce que tu arrives devant les murs de leur forteresse. Et il dit, donc ensuite il dit, et puis ensuite invite-les ou appelle-les à l'islam. Et le cheikh explique que c'est ça le but même de ce chapitre, c'est d'expliquer le fait d'inviter les gens à l'islam et à la ilaha illallah. Et c'est pour cette raison que le Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a cité ce hadith justement dans ce chapitre. C'est parce qu'il y a dedans justement l'ordre d'inviter les gens à l'islam. Et donc, le cheikh explique qu'il est obligatoire d'inviter les gens à l'islam et que il faut que l'intention de ceux qui font le djihad, lorsqu'ils font le djihad et lorsqu'ils luttent dans le sentier d'Allah, eh bien, leur intention doit être de guider les créatures à l'islam et de les amener à entrer en islam. Et donc, il est obligatoire pour les dirigeants musulmans d'établir cela comme étant leur base et leur intention. Hein? Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il a défini justement l'islam en disant que c'est la religion que Allah a agréée et avec laquelle Allah a envoyé ses messagers. Et c'est la soumission à Allah seul. Et son fondement ou sa base est dans le cœur. Et l'humilité envers Allah, lui seul, par son adoration, hein, en dehors de tout ce qui existe. Donc c'est seulement à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on doit vouer une adoration. Et donc quiconque a adoré Allah seul, mais qu'il a adoré avec Allah une autre divinité, alors il n'est pas musulman. Donc s'il adore Allah, puis qu'il adore une autre divinité avec Allah, alors dans ce cas-là, il n'est pas musulman, il est mushrik. Et celui qui refuse carrément d'adorer Allah, hein, c'est-à-dire qu'il reconnaît pas une autre divinité, il croit pas nécessairement en une autre divinité, et il reconnaît que Allah existe, mais qu'il refuse de l'adorer. Il dit non, moi j'adore pas. Alors il dit celui-là, il s'est enflé d'orgueil vis-à-vis de l'adoration d'Allah et il n'est pas musulman. Par conséquent, il n'est pas musulman. Même s'il dit oui, je crois que Dieu existe, mais je refuse de l'adorer. Alors dans ce cas-là, il n'est pas musulman. Et il dit toutefois, la foi, c'est à sa base, c'est de reconnaître la véracité de ce qui vient d'Allah et de le déclarer, hein, et de le connaître. Ça, c'est la base de la foi. Ensuite, le cheikh, il dit, wa qawluhu wa akhbarahum bima yajibu alayhim min haqqi Allahi ta'ala fihi. Wa akhbirhum bima yajibu alayhim min haqqi Allahi ta'ala fihi. مما أمر به وشرعه من حقوق لا إله إلا الله وهذا يدل على أن الأعمال من الإيمان خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول وزعموا أن الإيمان هو مجرد التصديق وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما نهى عنه تركا وفيه الرد على المشركين المستدلين على الشرك بكرامات الأولياء لدلالتها على فضلهم وأمير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات ما لم يقع لغيره وله من السابقة والجهاد والفضائل ما ليس لغيره وقد خد الأخاديد وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤلاء المشركون مع أهل البيت وغيرهم فصار من أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشدة على من أشرك حتى أحرقهم بالنار وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما أعطي من الكرامات صار من بعد الصحابة عن الشرك وذرائعه صار من أبعد الصحابة عن الشرك وذرائعه وهما أفضل أهل الكرامات فما زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد وشدة على أهل الشرك والتنديد كما جرى لعمر رضي الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتعمية قبر دانيال لما وجده الصحابة في بيت مال الهرمزان وكما في المعجزات إنما زادت الرسل قوة في الدعوة إلى التوحيد وشدة على أهل الشرك والإنكار عليهم وجهادهم لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على الجهال الذين تلبسوا بالشرك ويظنون أن ذلك كرامات وهي من مكر الشيطان وإغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل. وقد قال تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. فكذلك يجب على كل أحد أن يطلب الحق من القرآن بتدبره، فإنه الصراط المستقيم، ولا يلتفت إلى ما زخرفته الشياطين وما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم. Donc on va traduire ce passage. Le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il explique donc la suite du hadith lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: informe-les de ce qui est obligatoire pour eux du droit d'Allah, hein, par rapport à la ilaha illallah. Et le Cheikh explique que parmi les choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam le cheikh explique que parmi les choses qui ont été ordonnées par rapport à la ilaha illallah et de ce qui a été légiféré des droits de la ilaha illallah, et il explique que ça, c'est ce qui indique que les actions font partie de la foi, hein, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a expliqué dans un des hadiths que la ilaha illallah, il a des droits. Donc même si quelqu'un dit la ilaha illallah, eh bien il doit respecter les droits qui viennent avec la ilaha illallah, les choses qui font partie des droits de la ilaha illallah, comme par exemple de donner la zakat et de faire la salat et ainsi de suite. Et le cheikh explique que ça fait partie, hein, des actions, et c'est la preuve donc que les actions font partie de la foi. Contrairement aux sectes qui ont dévié sur ce sujet par rapport à cette question, comme les Asha'ira. Et les Asha'ira font partie des Murji'a. Les Asha'ira font partie des Murji'a. Hein, donc, ils pensent que la foi, c'est seulement la reconnaissance de la vérité ou le fait de croire avec le cœur seulement, même si quelqu'un ne fait rien des œuvres, ou même si quelqu'un fait tous les péchés qui existent, que cela ne diminue pas leur foi. Hein? Donc ça, c'est clair que c'est une déviation et un égarement. Et donc ça, le cheikh explique que la raison pourquoi ils ont dévié à ce sujet-là, c'est parce qu'ils ont délaissé ce qui est prouvé par le Coran et la Sunna au sujet de la foi. Et parce que la religion, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné de faire. Et c'est par rapport à qu'est-ce qui est ordonné de faire dans les actions. Et c'est de délaisser ce qui a été interdit. Et donc il y a dans ça la réfutation des mushrikines qui essaient de justifier le shirk qu'ils font par les karamat, hein, les karamat, c'est-à-dire il y a beaucoup de gens, et on est en train d'expliquer ça justement dans le livre de Al-Furqan Baina Awliya Ar-Rahman wa Awliya Ash-Shaytan, c'est qu'il y a beaucoup de gens parmi les gens qui se disent musulmans et qui adorent les morts et les tombes, qui essaient de justifier le shirk qu'ils font et l'adoration des tombes en disant que oui, mais il y a des miracles ou bien il y a des karamates qui se font, hein, et que ça, c'est la preuve du mérite de ceux qu'on est en train d'adorer en dehors d'Allah, qu'il nous octroie des miracles ou des choses de ce genre. Et le cheikh explique que en ce qui concerne Ali radiallahu anhu, Amir al-Mu'minin, il a fait lui-même beaucoup de karamat. Hein, il a eu beaucoup de karamat. Et certaines de ces karamat-là, c'est seulement lui qui les a eues. C'est-à-dire personne d'autre a eu ces karamat-là autre que lui. Et également, on sait qu'il a été parmi les gens qui ont précédé dans l'islam et dans la foi et dans le djihad. Et il a de nombreux mérites que beaucoup d'autres n'ont pas parmi les sahaba. Et il explique qu'il a fait creuser à un certain moment même des fossés. Hein, il a fait creuser des fosses pour jeter ceux qui avaient exagéré à son sujet dedans, pour les brûler vivants justement. Parce qu'il y a eu à un certain moment donné des égarés qui ont été jusqu'à dire qu'il était Allah. Hein? Et lorsque Ali radiallahu anhu a entendu cette parole, il a été tellement en colère qu'il a fait creuser des fossés, Il a fait creuser des fosses et il a jeté du bois dedans et il a jeté le feu et il a brûlé vivant tous ceux parmi ces extrémistes qui disaient qu'il était Allah. A'udhu billah. Donc ça, c'est les gens qui suivaient Abdullah ibn Sabah, le juif yéménite qui se faisait passer pour un musulman et qui propageait un peu partout des idées extrémistes et des égarements à propos d'Ali radiallahu anhu justement pour faire tomber des gens dans l'égarement. Et parmi ces égarements-là, justement, c'est on a vu apparaître à cause de ça par la suite, justement, la secte des Rafida, la secte des Rafida. Ensuite, le cheikh, il explique que il explique que parmi les gens qui ont eu donc ces croyances extrémistes et des croyances de shirk à propos de Ali radiallahu anhu et à propos de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et Ali radiallahu anhu a été parmi les sahaba ceux qui ont été les plus stricts, les plus sévères justement dans le fait de s'éloigner du shirk et de la sévérité par laquelle il a puni ceux qui ont justement commis du shirk à cause de sa personne ou par rapport à sa personne et qui ont exagéré à son sujet et il les a brûlés vivants. De même que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avec ce qu'il a reçu également comme karamat, il a reçu de nombreuses karamat, il a fait de nombreux prodiges et de nombreux actes, des choses miraculeuses. Et il explique ensuite que malgré ça, il était parmi les gens qui étaient les plus éloignés du shirk et des choses qui peuvent mener au shirk. Et donc, ses deux compagnons, Ali radiallahu anhu, ainsi que Omar radiallahu anhuma, eh bien, ils ont eu de nombreuses karamates et ça ne les a fait augmenter que en force dans leur tawhid. Et encore plus, ça les a fait également encore plus augmenter en sévérité envers les gens du shirk et de l'association. Et ce qui est arrivé justement à l'époque de Omar radiallahu anhu, il y a plein d'exemples qui prouvent ça, comme l'exemple de Omar lorsqu'il a demandé à l'oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Abbas, il lui a demandé de faire le doua de la prière de la pluie. Hein, le doua al-istisqa pour demander la pluie par son invocation. Ça, c'est un exemple de son attachement au tawhid. Un autre exemple, c'est le moment où on avait découvert un endroit où le prophète Daniel avait été enterré. Et lorsque ils ont trouvé cette tombe du prophète Daniel, eh bien, Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a ordonné que cette tombe soit yani, cachée. Hein? Et il a fait creuser justement plusieurs trous. Hein? Et il l'a enterré dans un de ces trous-là. Et il n'a pas désigné ou spécifié lequel d'entre eux était celle de la tombe de Daniel, justement pour faire en sorte que les gens ne sachent pas où il avait été enterré. Donc ça, c'était un des moyens que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, avait employé pour empêcher les gens, justement, de tomber dans l'exagération à propos de la tombe de Daniel. Donc ça, c'est un exemple qui montre son attachement au tawhid et son éloignement du shirk. Que malheureusement beaucoup de soufis et beaucoup d'égarés parmi les chiites, rafida et d'autres sont tombés dans l'exagération à propos des tombes justement à cause de ça. Et Omar ibn al-Khattab, lui, il a donné des moyens, il a fait des choses pour justement faire en sorte que les gens s'éloignent de ça et pour les empêcher de tomber dans ce genre de choses. Ensuite, le cheikh, il explique que yani, de la même manière que les miracles que les prophètes ont faits, ça ne les augmentait que en force dans leur da'wa au tawhid, et ça ne faisait que les endurcir dans leur position contre les gens du shirk et la condamnation de ce qu'ils font et le fait de lutter contre eux. Et donc, la même chose s'est produit également de la part des Sahaba lorsqu'ils faisaient des karamat. Et il explique que il se peut que certains parmi les gens de l'égarement puissent avoir certaines être passés par certains états diaboliques et sataniques, ce qui fait que le shaitan prend le dessus sur eux. Et ça, c'est lorsqu'ils ont oublié le rappel de leur Seigneur. Eh bien, ils arrivent à faire toutes sortes d'actes qui sont extraordinaires ou bien qui sont surnaturels. Et ils font des choses de sorcellerie et de magie comme ça. Et les gens ignorants sont trompés parfois par ce genre de choses. Et ils s'imaginent que ce sont des miracles ou des prodiges. Hein? Alors qu'en réalité, c'est du shirk qui a été fait pour justement arriver à pouvoir faire ces choses-là. Et ça fait partie des ruses du shaitan qui sont employées par le shaitan justement pour faire dévier ceux qui ne connaissent pas la distinction entre le vrai et le faux. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala a dit à son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans Sourate Az-Zukhruf, le verset 43, فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. C'est-à-dire, accroche-toi à ce qui t'a été révélé, tu es certes sur un chemin droit. Et c'est ainsi également qu'il est obligatoire à chaque personne qui recherche la vérité de méditer sur le Coran, parce que le Coran, c'est le droit chemin. Et donc, il ne faut pas se tourner vers les discours enjolivés hein, des diables et des shayatines, et comme plusieurs, malheureusement, ont été trompés par. C'est ça. Plusieurs parmi ceux qui ont été trompés dans cette oumma ont été justement séduits par les beaux discours de ces diables et de ces shayatin al-ins ou shayatin al-jinn. Et donc, c'est pour cette raison-là qu'il faut toujours rester fermement accroché à ce tawhid et à la science du tawhid, justement, pour éviter d'être trompé. Ensuite, le cheikh, il explique et il dit wa qawluhu fa'allah fa'wallah wa fihi jawazu half al-mufti ala ma afta bihi qawluhu la'an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khayrun laka min humr an-ni'am, yani humr an-ni'am ou humr an-ni'am bisukun al-mim يعني بسكون الميم يعني الإبل الحمر يعني وهي أنفس الأموال عند العرب وهي أنفس الأموال عند العرب نعم وهي أنفس الأموال عند العرب وفيه الترغيب في الدعوة إلى الله وطلب الهداية لمن أراد الله هدايته ليحصل للداعي إلى الحق هذه الفضيلة العظيمة بهداية من اهتدى فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب العالية وبالله التوفيق وقوله يدوكون أي يخوضون بين المصنف رحمه الله معنى هذه اللفظة بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير وتمني حصوله والله أعلم. Donc ici le cheikh il termine l'explication du hadith. Il dit que le prophète صلى الله عليه وسلم il dit ensuite فوالله. Et ça c'est يعني le fait que il jure par Allah. Hein? Et il dit, le cheikh, que ça, c'est la preuve qu'il est permis pour la personne qui donne une fatwa ou qui explique un verdict religieux, il a le droit de jurer par Allah de cette fatwa. Il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala guide hein, par ta cause un seul homme, ce sera meilleur pour toi que d'avoir les chameaux rouges. Hein, humrun ni'am, Bisukun il mim, avec un sukun sur le mim. Il explique que ça veut dire, yani, les chameaux qui sont rouges, ça veut dire c'était les biens les plus précieux que possédaient les Arabes de l'époque. Et donc, c'était la plus grande richesse pour eux. Et donc, c'est une incitation ici à faire la da'wa et à chercher la guidance pour celui que Allah a voulu guider, pour que la personne qui invite les gens à la vérité puisse justement obtenir ce grand mérite, yani, qui est yani, la guidance de celui qui a été guidé. Et donc, il ne faut pas avoir de négligence yani, dans ces exigences, yani, dans ces grandes hautes exigences-là. Il ne faut pas avoir de manquement là-dedans. Et par Allah vient le succès. Et donc, ensuite, il explique que l'auteur, l'imam Mohammed ibn Abdul Wahhab a expliqué que un des termes dans le hadith qui est mentionné, yadoukoun, c'est-à-dire que yani, ils sont restés là, en train de discuter entre eux et d'essayer de comprendre ou de connaître qui allait être la personne qui allait recevoir le drapeau le lendemain. Donc ça fait partie des explications que le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a rajouté pour clarifier ce terme-là. نعم بأن المراد خوض السامعين في هذا الخير. نعم. Et donc ça c'est ce qui vient terminer donc ce chapitre. Maintenant on va passer au chapitre numéro 6 qui est Babun tafsir al-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Naam, donc c'est ce chapitre maintenant qui s'intitule Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah wa shahadatu an la ilaha illallah, c'est-à-dire ou bien naam, Tafsir al-Tawhid wa shahadati an la ilaha illallah, c'est-à-dire l'explication du Tawhid et du témoignage de la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, on va mentionner maintenant les versets et les hadiths que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a mentionnés dans ce chapitre. Il a cité ici, il a cité ici plusieurs versets. Donc, 1, 2, 3, 4, 4 versets. Et il a cité un hadith. Donc, on va lire maintenant ensemble ces hadiths, ces versets et ces hadiths, puis après on va commencer à expliquer et à lire le charh. Donc ici, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, il a mentionné comme premier verset le verset 57 dans Sourate Al-Isra, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit wa qawlullahi ta'ala ulaika alladhina yad'una yabtaghuna ila rabbihim alwasilata ayyuhum aqrab ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. Donc ça c'est le premier verset et on va lire tout de suite la traduction dans Sourate Al-Isra, le verset 57. Donc le cheikh il cite ce verset, on va lire qu'est-ce qu'il signifie. Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie ceux qu'ils invoquent, c'est-à-dire ceux que les mushrikines invoquent, cherchent eux-mêmes à qui mieux le moyen de se rapprocher de leur Seigneur, le plus de leur Seigneur. Donc, c'est-à-dire que même les choses, même les êtres ou les personnes, hein, comme par exemple ceux qui prient à des prophètes ou qui adorent des prophètes, hein, ou qui adorent des anges ou qui adorent d'autres créatures, ces choses, ces personnes qu'ils adorent, eux-mêmes, ils cherchent un moyen de se rapprocher plus d'Allah. Et ils espèrent en sa miséricorde et ils craignent son châtiment. Et le châtiment de ton Seigneur est vraiment redouté. Ça, c'est le premier verset. Le second verset, c'est le suivant. وَقَوْلُهُ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. C'est les versets 26 et 27 dans Sourate Az-Zukhruf. Et la signification de ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie. Et lorsque Ibrahim alayhi salam dit à son père et à son peuple, Certes, je me désavoue de ce que vous adorez, excepté de celui qui m'a créé, car c'est lui qui me guide. Et il a fait de cette parole une parole permanente dans sa progéniture pour qu'il puisse revenir. Et on va expliquer ce verset-là par la suite aussi, Inch'Allah. Le verset suivant, c'est le verset 31 dans Surat At-Tawba, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit وقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Et c'est un verset, le verset 31, qui signifie: ils ont pris leurs moines, ou bien plutôt leurs rabbins et leurs moines, comme des seigneurs en dehors d'Allah, ainsi que le Messie, fils de Marie, alors qu'il n'avait été ordonné que d'adorer une divinité unique. Rien ne mérite d'être adoré excepté lui. Louange et purification à lui de tout ce qu'il lui associe. Et le verset suivant, qui est le verset 165 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie, ou bien plutôt il dit, on va lire le verset, وَقَوْلُهُ وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Donc c'est le verset 165 dans Surat al-Baqarah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit ce qui signifie: et parmi les hommes, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux, ou bien des seigneurs, des égaux, qu'ils aiment comme on aime Allah, ou comme ils devraient plutôt aimer Allah. Tandis que ceux qui ont cru sont encore plus forts dans leur amour d'Allah. Et ça c'est les versets. Et le hadith que le cheikh a mentionné, l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a rapporté un hadith qui est rapporté dans As-Sahih. Et il dit que c'est selon le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله يعني حرم ماله ودمه وحسابه على الله سبحانه وتعالى. Donc après il dit وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Donc ici l'explication de ce hadith que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit rien ne mérite d'être adoré, c'est-à-dire quiconque dit rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui renie tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, alors son sang et ses biens sont sacrés et son jugement incombe à Allah. Et il explique ici, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, que l'explication de ce chapitre et du titre de ce chapitre, et il est dans tout ce qui vient par la suite, comme les différents chapitres qui suivent vont expliquer ce titre-là, ou bien le titre de ce chapitre-là. Donc, en voulant dire que le chapitre numéro 6, c'est en réalité expliqué par tout le reste du livre. Tout ce qui suit dans le livre va être expliqué, va être l'explication de ce chapitre-là. Donc, les cinq premiers chapitres dans Kitab al-Tawhid, si on veut, c'est comme l'introduction au sujet du Tawhid. Et la définition et les clarifications de l'importance du sujet et du mérite de ce sujet-là, et ainsi de suite. Maintenant, on passe à un autre, le chapitre numéro 6, eh bien, c'est en fait le début de la clarification des détails de ce que signifie le tawhid et la ilaha illallah. Et ça, c'est dans tous les autres chapitres qui suivent par la suite, qui vont détailler justement la réalité de cette parole et qu'est-ce qu'elle peut signifier et qu'est-ce qu'elle peut impliquer. Donc, le cheikh, il commence par expliquer le titre. Donc, « Babun tafsiru » تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. قوله باب التفسير باب باب التفسير أو باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. عقد المصنف رحمه الله هذا الباب بعد الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، لأن الذي يدعو إلى شهادة أن لا إله إلا الله ويدعو إلى التوحيد لا بد أن يعرف معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فلا يكفي مجرد الدعاء إلى لفظها دون فهم وتفصيل لمعناها، ولا يكفي الدعاء إلى التوحيد دون معرفة معناه ومعرفة ما يضاده من الشرك، فلا بد أن الذي يدعو إلى فلا بد من الذي يدعو إلى الله يعرف ما هو التوحيد حتى يبينه للناس، ويعرف ما هو الشرك حتى يحذر الناس منه. Donc on va traduire ce jusqu'ici. Le cheikh il explique que cheikh Al-Fawzan il dit donc l'auteur il a donc réuni les points dans ce chapitre et c'est un chapitre qui vient après le chapitre de l'appel au témoignage de la ilaha illallah, parce que yani, le fait d'appeler au témoignage de la ilaha illallah et d'appeler au tawhid, eh bien ça nécessite d'avoir la connaissance de la signification du témoignage de la ilaha illallah en détail, et que ce n'est pas suffisant d'inviter les gens uniquement à prononcer cette parole sans la comprendre et sans les détails de ce qu'elle signifie. Et donc, ce n'est pas suffisant juste de dire aux gens, de répéter la ilaha illallah sans connaître la signification de cette parole et sans connaître également ce qui s'oppose à cette parole, comme par exemple les différentes formes de shirk. Donc, si par exemple, et comme j'ai donné cet exemple-là plusieurs fois à des frères pour leur faire comprendre, parce que beaucoup de gens, parfois, ils négligent ça. Et surtout, les gens qui n'ont pas étudié le tawhid, parmi les différents groupes de déviations qui existent parmi les musulmans aujourd'hui, qui prennent la religion de façon très, très superficielle. Et donc, eux, quand ils parlent de l'islam, ils parlent d'un islam général, sans jamais détailler la réalité de qu'est-ce que signifie cet islam. Et donc, par conséquent, yani, ils vont dire aux gens, il faut dire la ilaha illallah, et une fois que la personne a dit la ilaha illallah, eh bien, c'est comme si yani, cette parole-là n'avait pas vraiment de signification. Et combien de fois j'ai rencontré des convertis qui m'ont dit eux-mêmes, moi, j'étais converti à l'islam avec un groupe de personnes ou avec des gens qui ne m'ont rien expliqué de ce que signifiait la réalité d'être un musulman. C'est comme s'ils l'ont aidé à se convertir à l'islam, mais ils ne lui ont jamais expliqué qu'est-ce que c'est l'islam en soi et en quoi ça consiste d'être un musulman. Et donc ces gens-là sont restés des fois pendant plusieurs années en se disant musulmans, mais sans vraiment savoir ce que c'est d'être un musulman. D'accord? Et donc c'est ça qui est très grave et qui est très dangereux aussi. De plus, il y a plein de groupes et de sectes qui existent et qui appellent à ce qu'ils prétendent être l'islam. Et quand tu réalises ou quand tu analyses plus en détail la réalité de ce à quoi ils appellent, eh bien tu constates que ces gens-là n'appellent pas réellement à l'islam, mais qu'ils appellent plutôt à toutes sortes d'idées ou de principes qui viennent en contradiction totale avec le Coran et la Sunna. Et pourtant, ils se disent quand même musulmans. Donc il y a des problèmes avec ça. Et ici, le cheikh, il explique, donc, ce qu'il dit ici, c'est pour donner un exemple de ça, c'est comme si tu te tenais, par exemple, au coin de la rue et que tu arrêtais des passants et que tu leur demandais de répéter une parole en arabe en leur disant qu'il faut dire cette parole. Donc, tu leur fais répéter « La ilaha illallah » et puis tu les laisses partir. Tu leur dis « Est-ce que vous pouvez répéter cette parole ?» Et puis tu leur fais dire La ilaha illallah. Et là, ils disent La ilaha illallah. Et puis tu dis D'accord, vous pouvez vous en aller. Est-ce que des gens qui ont fait ça et qui vont répéter cette parole, est-ce qu'on va considérer que ces gens-là sont musulmans? Juste parce qu'ils ont répété la parole sans même savoir réellement qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire, qu'est-ce que ça signifie cette parole. Et donc, ça, c'est pour faire comprendre en fait que ce n'est pas suffisant et que il faut comprendre ce que cette parole-là signifie. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à son époque, lorsqu'il a dit aux Arabes auxquels il a été envoyé de répéter la ilaha illallah, eh bien, il y a une raison très claire pourquoi justement ces Arabes-là, à l'époque, refusaient de le dire. Et une des raisons pourquoi ils refusaient de le dire, c'est parce qu'ils savaient ce que cette parole implique. Et eux, ils n'étaient pas prêts à prononcer une parole en laquelle ils ne croyaient pas, ou bien yani, s'ils savaient que, par exemple, dans cette parole, ça implique qu'ils allaient tomber dans une sorte de contradiction. Entre ce qu'ils croient et ce qu'ils pratiquent. Hein? Donc, eux, ils voulaient continuer de yani, adorer les idoles. Et ils savaient que de dire cette parole, eh bien, ça impliquait qu'ils devaient cesser d'adorer les idoles. Et donc, c'est ça ce qui nous fait comprendre, en fait, que yani, ils ne voulaient pas se contredire. Et c'est pour cette raison pourquoi ils ont refusé de dire cette parole. Tandis que beaucoup de gens aujourd'hui qui se disent musulmans, qui disent la ilaha illallah et qui ne comprennent pas sa signification, et par conséquent, ils se contredisent et yani, ils ne le réalisent même pas. Et donc, c'est pour ça ici que le cheikh il dit que celui qui invite les gens à la ilaha illallah, il faut absolument qu'ils connaissent la signification du témoignage de la ilaha illallah et que ce n'est pas suffisant de répéter cette parole et de dire les mots seulement, sans la comprendre et sans avoir la connaissance détaillée de ce que cette parole signifie. Et donc, il ne faut pas appeler à ce témoignage du tawhid sans connaître qu'est-ce que ça signifie le tawhid et sans connaître également ce qui oppose le tawhid des différentes formes de shirk qui existent. Parce qu'il y a des gens aussi qui ont ce problème. C'est-à-dire que si tu leur demandes le tawhid, qu'est-ce que c'est? Ils vont dire le tawhid, c'est d'adorer Allah uniquement et d'adorer Allah seul. D'accord, ça c'est bien. Mais par la suite, ils vont faire beaucoup de différentes formes de shirk. Pourquoi? Parce que ils ne savent pas ce qui oppose le tawhid et ils ne comprennent pas non plus en quoi consiste le shirk pour s'en protéger et pour s'en préserver. Donc il faut connaître non seulement le tawhid, mais il faut connaître également ce qui s'oppose au tawhid. Après le cheikh, il dit hein, que donc il faut absolument que la personne qui appelle au tawhid, sache ce qu'est réellement le tawhid pour pouvoir le clarifier aux gens et de connaître également ce que c'est le shirk pour pouvoir avertir les gens et mettre les gens en garde contre ce que c'est justement le shirk. Donc il dit فلا يكفي أن يقول للناس قولوا لا إله إلا الله ووحدوا الله واتركوا الشرك ابتعدوا عن الشرك بل لا بد أن يشرح لهم معنى التوحيد ومعنى لا إله إلا الله ويشرح لهم معنى الشرك ويبينه لهم وهذا معنى البصيرة لقوله تعالى ادعوا إلى الله على بصيرة ادعوا إلى الله على بصيرة ومعنى قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ولا يمكن أن يكون هناك حكمة وموعظة وجدال بالتي هي أحسن إلا إذا اتصف الداعية إلى الله بالعلم فعرف الحق ودعا إليه وعرف الباطل ونهى عنه لأن كثيرا من المشركين قديما وحديثا يفسرون الشرك بأنه عبادة الأصنام فقط أما دعاء الأولياء والصالحين والملائكة والرسل يقولون هذا ليس من الشرك، وهذا توسل إلى الله، وهذا طلب للشفاعة، فيفسرون الشرك بغير الشرك. والتوحيد يقولون هو توحيد الربوبية، يكفي بأن تقر بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، وأن تعتقد أنه لا أحد يشارك الله في توحيد الربوبية، وهذا هو التوحيد عندهم. وأما الشرك في الألوهية ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، هذا لا يسمونه شركا ولا يضر عندهم بالتوحيد. التوحيد عندهم هو توحيد الربوبية فقط، ولا يدخلون فيه توحيد الألوهية. يعني donc on va lire jusqu'ici. Donc, le cheikh, il explique que le cheikh, il explique que yani, c'est pas suffisant de dire aux gens, de répéter ou dire la ilaha illallah, unifier Allah, hein, délaisser le shirk, abandonner le shirk, écartez-vous du shirk. C'est pas suffisant de dire ça. C'est pas suffisant de dire ça, parce que si tu dis aux gens dites la ilaha illallah et que tu leur expliques pas ce que ça signifie, établissez le tawhid, accrochez-vous au tawhid, et les gens savent pas qu'est-ce que c'est le tawhid en détail. Si tu dis aux gens laissez le shirk, mais ils savent pas qu'est-ce que c'est le shirk, qu'est-ce que ça signifie le shirk, comme c'est le cas de beaucoup de musulmans aujourd'hui, eh bien ça c'est insuffisant. Le cheikh explique qu'il faut absolument que on explique la définition du tawhid et les détails de ce que ça signifie la ilaha illallah, et de leur clarifier la signification du shirk, et de leur clarifier le shirk pour qu'ils puissent justement s'en préserver. Et ça c'est la signification de ce que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset, hein, quand il parle de al-basira. Al-basira, c'est-à-dire la connaissance et la compréhension. Dans le verset 108, dans surat Yusuf, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala mentionne le verset قُلْ هَذِهِ سَبِيلِ أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرًا, hein, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce qui signifie, dis ô Muhammad, ceci est mon chemin, j'invite à Allah avec compréhension et connaissance. Et ça c'est la signification de ça. Et dans l'autre verset, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, invite au chemin de ton Seigneur avec sagesse et une bonne exhortation. C'est le verset 125 dans Surat al-Nahl. Eh bien, le cheikh explique qu'il n'est pas possible, il n'est pas possible que quelque chose soit décrit comme étant sage ou ayant de la sagesse, et qu'une exhortation ou une discussion soit bonne, excepté si la personne qui prend part à cette invitation de l'islam et cette invitation à Allah possède justement une science suffisante, hein, de la vérité pour être capable d'inviter les gens à cette vérité-là, et de connaître également le faux, hein, et de connaître le faux et de connaître ce que cette parole interdit, hein, comme principe ou comme action ou comme parole, parce que c'est important de savoir ce qui s'y oppose, hein, ce qui s'oppose au tawhid, pour être capable de l'interdire, pour être capable de s'interdire à soi-même de faire ce qui oppose le tawhid, et de l'interdire aux autres également. Ensuite, le cheikh il explique que il y a beaucoup de mushrikine dans le passé et même à notre époque, ils interprètent le shirk comme étant l'adoration des idoles seulement. Et juste récemment, il y a un frère qui m'a envoyé une vidéo d'un pasteur protestant, chrétien protestant, hein, et qui se met devant une assemblée dans son église avec une statue de Marie, hein, et qui qui la détruit en fait, qui la casse devant tout le monde. Et pourquoi? Parce que les protestants utilisent toujours cet élément-là comme argument contre les catholiques. Parce que le culte de Marie, il est surtout encouragé par les catholiques en particulier et les orthodoxes. Tandis que les protestants, eux, refusent en grande partie le culte de Marie, d'accord, et l'adoration de Marie. Et ils considèrent que c'est une forme d'idolâtrie, de shirk. Alors ce pasteur protestant qui est en train de casser cette statue et il montre, hein, il fait des blagues avec ça, puis il fait rire son assemblée avec toutes sortes d'histoires et toutes sortes de blagues. Et quand il casse la statue, il dit, mais pourquoi elle ne s'est pas protégée elle-même? Pourquoi elle ne s'est pas, elle ne m'a pas empêché de la casser ou ainsi de suite? Et c'est vrai ce qu'il dit, que cette statue, elle n'a aucun pouvoir et qu'elle ne mérite pas d'être adorée. Sauf que il ne faut pas s'imaginer que l'adoration des idoles, c'est la seule forme de shirk qui existe. Parce que même si les protestants, par exemple, eux, ne prient pas Marie ou n'offrent pas de culte à Marie en particulier, eh bien, ça ne veut pas dire que ce ne sont pas des mouchrikines malgré tout, puisque eux, ils prient à Jésus, et Jésus, hein, c'est un être humain, et donc, par conséquent, de l'adorer en dehors d'Allah, c'est une forme de shirk. C'est une forme de shirk. Et donc, ils font eux aussi de l'idolâtrie en adorant un être humain, en adorant un prophète, en adorant un messager parmi les messagers d'Allah. Donc, l'adoration des idoles, ce n'est pas la seule forme de shirk qui existe. Si quelqu'un adore un ange, si quelqu'un adore un prophète, si quelqu'un adore un messager, si quelqu'un adore un homme qui est pieux, eh bien, il est considéré comme un mouchrik aussi, même si Yanni, ce n'est pas une statue. Hein. Et s'il adore Marie sans faire sa statue, c'est du shirk aussi quand même. Et s'il n'adore pas Marie, il n'adore pas la statue de Marie, mais qu'il adore Jésus, même s'il n'adore pas une statue de Jésus, même s'il adore juste Jésus lui-même, hein, eh bien, c'est du shirk. C'est du shirk aussi. C'est de le fait d'associer, donner à Allah des partenaires dans l'adoration. Et ça, c'est de l'idolâtrie selon l'islam. Et c'est quelque chose qui fait que c'est pour cette raison qu'on dit que les protestants, les catholiques et tous les chrétiens en général sont tous des mouchrikines, peu importe qu'ils prient à Marie ou non. Parce qu'ils prient à Jésus et ça, c'est la même chose. C'est la même chose. Et ensuite, le cheikh, il explique, il dit donc que. Que beaucoup de mouchrikines, donc dans le passé et à l'époque actuelle, font du shirk parce qu'ils interprètent le shirk comme étant uniquement l'adoration des idoles, seulement. Tandis que d'adorer ou de faire des invocations à des hommes pieux, à des hommes vertueux ou à des anges ou à des messagers, ils disent non, ça c'est pas du shirk. Ou de prendre Allah. De passer par un intermédiaire pour aller à Allah dans l'adoration en lui demandant l'intercession ou l'intercession ou bien de le prendre comme un intermédiaire ou un intercesseur, il pense que ça c'est quelque chose qui ne fait pas partie du shirk. Ou bien de demander à Allah par sa créature. Ça fait partie des exemples de choses qui font partie du shirk mineur, hein, si quelqu'un demande à Allah par sa créature. Et les chrétiens, ils demandent toujours, ils prient toujours à Allah par Jésus, hein, par le nom de Jésus, par exemple. Ou par il y en a des exemples comme ça. Il y a beaucoup de soufis qui font ça aussi avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils disent, par exemple, quand ils font leur doigt, ils disent As'aluka bijahin nabi, ou bi nabika Muhammad, an taghfirali, ou an taqdi hajati. Donc, ça, c'est des formes de tawassul qui sont des innovations et qui sont des formes de shirk mineur qui peuvent amener au shirk majeur. Tandis que s'ils demandaient à Allah, s'ils demandaient plutôt, parce que eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent à Allah par le prophète. Donc ça, c'est une forme de shirk mineur et c'est quelque chose qui fait partie des bid'a et des innovations. Mais s'il demande directement au prophète ou s'il demande directement à une créature ou à un homme pieux, hein, eh bien là, ça, c'est du shirk majeur. Là, ça, c'est du shirk majeur. Et il y en a beaucoup parmi les gens qui se disent musulmans et qui font ça. et qui adore des créatures en dehors d'Allah, ça c'est shirk akbar. Et celui qui fait le shirk majeur, il est en enfer. S'il meurt sur ça, il est en enfer pour l'éternité. Il n'a aucune part, hein, du pardon d'Allah et de la miséricorde d'Allah. Donc ça, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement sérieux. C'est pour ça qu'il faut faire attention et bien faire attention d'étudier, hein, le tawhid. Attendez, est-ce que j'ai oublié de partir la radio? Ah non, je l'ai. Je suis parti. Ok. Ensuite, le cheikh, il explique que... Naam. Donc, le cheikh, il dit... Donc... En ce qui concerne le tawhid, par rapport à ces gens qui yani, ne connaissent pas la réalité vraiment du tawhid, ils pensent que le tawhid, c'est seulement le tawhid dans la rububiyya. Il y a beaucoup de soufis comme ça. Il y a beaucoup de gens parmi différentes sectes, quand tu leur demandes c'est quoi le tawhid, hein, les Asha'ira, les Maturidiyya, beaucoup de soufis, tu leur dis c'est quoi le tawhid, hein, ils pensent que ça se limite juste à la rububiyya. C'est-à-dire de reconnaître qu'Allah, c'est le maître et le créateur. C'est le seul qui, hein, a tout créé. Et c'est lui le tout-puissant. Et donc, il pense que si tu as reconnu ça y est, tu es sur le tawhid. Même si tu pries à un saint, ou que même si tu prends un intercesseur entre toi et Allah, et que tu l'adores pour te rapprocher d'Allah, ils disent, ah, mais non, ça, c'est pas du shirk. Parce que tu reconnais qu'Allah, c'est le seul créateur, donc ça, c'est correct. Maintenant, tu n'es pas mushrik. Peu importe qu'est-ce que tu fais comme prière ou comme doua à autre que Allah, c'est pas grave. Donc ça, c'est un exemple d'une fausse compréhension du tawhid. Parce que malheureusement, beaucoup de groupes d'égarement, ils ont cette mentalité-là. Comme les Ahbash, comme les, par exemple, les Shia, Rafida. De la même manière aussi, les soufis, il y a beaucoup de soufis, ils ont cette mentalité aussi. Et yani, les Jamaat Tablir, ils ont cette aqida aussi. Et les Ikhwan, beaucoup d'entre eux, ils ont cette aqida aussi. Donc ils pensent que si tu vas reconnaître qu'Allah c'est le créateur, hein, les Asha'ira et les Maturidiyya, c'est ça leur aqida. Tu crois que Allah est le créateur? Tu crois que c'est lui qui donne le rizq, qui fait vivre et qui fait mourir, qui contrôle l'univers? Ça suffit. Tu es un mouahid. Même si tu adores d'autres que Allah, c'est pas grave pour eux. Allah musta'an. Et ils ne reconnaissent pas le tawhid dans l'adoration, le tawhid dans al-uluhiyya, tawhid al-ibada. Et donc, en ce qui concerne le shirk dans al-uluhiyya, hein, c'est-à-dire d'adorer d'autres que Allah, de chercher la protection d'autres que Allah, de demander au secours à autres que Allah, hein. Donc ça, c'est un exemple de shirk que eux, ils ne ils considèrent pas comme étant du shirk. Allah al-musta'an. Et c'est pour ça que beaucoup de gens se sont égarés à ce sujet-là. Donc le tawhid, pour eux, c'est seulement la rububiyya. Et ils ne font pas rentrer le tawhid al-uluhiyya dans le shirk. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui pour le kitab, pour le charh de Kitab al-Tawhid, inshallah. On continuera la suite au prochain cours. Bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.